Vous écoutez France Culture.
France Culture, 17h, je vous laisse avec Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous. Quatrième thématique de nos Une vie, une œuvre de l'été avec les voyages. Aujourd'hui, l'explorateur franco-italien Pierre Savagnin de Brazza, 1852-1905. Évoquer Brazza aujourd'hui, c'est revenir sur les ambiguïtés de la colonisation française au tournant des 19e et 20e siècles. Par ses découvertes, ses explorations du Congo, il a contribué à poser les fondements de la présence française dans cette partie de l'Afrique, ouvrant la voie, comme on le sait, à de nombreuses dérives. Mais c'est malgré lui que ces dérives se sont produites. Brazza était un humaniste, respectueux des peuples qu'il rencontrait et désespéré de leur exploitation. Françoise Esteb vous propose de mieux découvrir la vie de ce grand altruiste dans un documentaire réalisé par Jean-Claude Loiseau et diffusé une première fois le 17 octobre 2010.
À bord de tous les bâtiments et par sur toutes les mers, le même jour, à la même heure, la marine française a salué le souvenir de Pierre Savagnin de Brazza, qui naquit voici juste un siècle.
4 avril 1952.
En même temps, au cimetière d'Alger, M. Léonard, gouverneur général de l'Algérie, est allé fleurir la tombe de ce fondateur d'empire. Savagnin de Brazza fut l'un des pionniers qui, au dernier siècle, ouvrirent les routes de l'Afrique noire. En 2 voyages d'exploration, remontant le cours de l'Ogoué, il parvenait en 1880 sur les bords du Congo et y plantait le pavillon français, créant sur son passage 2 villes d'avenir, Franceville et Brazzaville.
Mademoiselle, mesdames, messieurs.
30 janvier 1944.
Il fallait, n'est-ce pas,
Charles de Gaulle,
qu'un monument fut élevé à la mémoire de Savagnin de Brazza sur cette terre d'Afrique équatoriale. Il fallait que ce monument fût dressé sur le bord de ce Congo, sur le bord du fleuve magnifique où ce grand Français a installé la France.
Quand de Gaulle décide de faire de Brazzaville la capitale de la France libre, il y va avec
Patrick Deville,
Marthe, la fille de Brazza. Donc s'il laisse une œuvre, c'est plutôt cette trace historique jusqu'à ce projet, appelons-le comme on veut, je ne sais pas si c'est farfelu ou pas, mais de faire ressortir ce personnage historique à partir de 2005 pour lui élever un mausolée au cœur de la capitale. Ce qui fait qu'il existe toujours historiquement, même si c'est pour susciter des polémiques.
C'est vraiment la mise en scène du personnage. C'est Brazza qui apparaît comme, je dirais presque le héros que la France attendait, une espèce de sauveur.
Isabelle Dion.
Donc au moment où la France se remettait de la perte de l'Alsace et de la Lorraine, de voir que cet homme, finalement, il a redonné une espèce de sentiment national à la France, hein, puisque c'est ce que dit Jules Ferry. Enfin, vraiment, on en a fait un héros de son vivant parce que c'était le sentiment national. Alors après, il y a eu justement l'opposition avec Stanley. Donc là aussi, l'idée de sentiment national était encore très forte, puisque Brazza s'impose, donne un territoire à la France, devant Stanley, et qui s'impose, lui, non pas par la force des armes, mais par son charisme, parce que ce serait quand même un peu trop. Mais bon, c'est l'image qu'il a donnée. Voilà, celui qui n'a pas tiré un coup de fusil, celui qui est allé nu-pied, celui qui a libéré les esclaves, et voilà, tout à coup, la France se retrouve avec une colonie, grâce à un seul homme et quelques compagnons.
Ce qui est intéressant, en parallèle avec Stanley, ils n'ont pas exactement le même âge, mais ils seront concurrents, ils ont une dizaine d'années d'écart, c'est que ce sont deux vies, lorsqu'on les raconte de l'enfance à la fin, qui sont réellement exceptionnelles et totalement opposées. L'un naît dans l'aristocratie d'une Italie qui n'existe pas, et donc il a sur lui le poids de l'histoire, ça c'est évident. Mais en même temps, il a une éducation extrêmement dure, comme celle, et austère, comme celle des jeunes aristocrates. Il naît dans une famille, pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils sont 12 frères et sœurs à Castel Gandolfo, et que lui quitte sa famille à 12 ou 13 ans pour devenir interne à Paris parce qu'il veut devenir marin.
C'est une famille qui a l'esprit ouvert, tout de même.
C'est une famille, absolument. Son père est ami avec Walter Scott, l'auteur d'Ivanhoé. Il a beaucoup vécu à Paris, il a vécu et il a voyagé lui-même. Son père, il y a une compétition avec son père au départ qui est très importante. Son père a remonté le Nil jusqu'au Soudan, ce qui n'est pas rien, même s'il ne s'agissait pas d'une exploration, parce que là, c'est dans la première moitié du 19e. Donc, il est tout de même dans un milieu enfin, où on lui enseigne des valeurs, où on ne cesse de lui répéter qu'en plus, il descend de l'empereur Sévère, qui lui-même
de Marco Polo aussi.
Est un Africain. Voilà. Et donc, bien sûr que c'est un être exceptionnel, mais qui est quand même le fruit d'une grande aristocratie. Mais des situations inverses peuvent produire aussi chez des êtres exceptionnels des résultats finalement assez proches, puisque Stanley, pour reprendre le parallèle, est lui un orphelin, enfin pas un orphelin, un enfant rejeté. Et lui, ça lui donne la force à, je sais pas quoi, 14-15 ans, de s'échapper, de fuir et de s'embarquer comme mousse dans des conditions absolument terribles pour rejoindre les Amériques.
Je dirais qu'il y a une fée qui se penche sur son berceau quand il est né, parce qu'il a eu énormément d'appui. Donc de tout petit, de l'âge de 14 ans, quand à Rome, il a rencontré l'amiral de Montaignac et qui lui a dit « Sire, je vais aller dans la marine française », etc. Donc l'amiral a fait en sorte que Braza puisse venir en France et qu'il soit admis dans l'école navale. Donc il a été admis à titre étranger. Bon, il a passé plus ou moins un concours, donc il a eu d'assez médiocres notes, mais il est sorti du Borda. Et puis, Braza a demandé à être naturalisé français parce qu'il voulait servir dans la marine. Et à Rome, dans les états du pape, il n'y avait pas vraiment de marine. Donc Braza avait fait sa demande de naturalisation. Il a été naturalisé français.
Dans le milieu même de la marine, il était, dit-on, assez regardé de haut par les collègues parce qu'il était d'origine étrangère. Il a toujours parlé français avec un accent italien assez fort. Il n'a jamais écrit lui-même. Il écrivait le français assez mal. Donc, il a toujours eu des plumes, d'ailleurs. Et donc, c'est pas son milieu de marin qu'il a soutenu. Et c'est vrai qu'il s'est beaucoup débrouillé. C'était un petit milieu très actif à la fin du 19e siècle, le milieu des explorateurs. Ils se connaissaient les uns les autres, ils y croyaient beaucoup. C'était un mélange. Il y avait des aventuriers, il y avait des petits nobles perdus qui avaient beaucoup de dettes. Enfin, il y avait de tout. Et Braza, lui, manifestement, y croyait.
Mais alors, au départ, précisément, Catherine Kokrivitrovitch, lorsque Braza mène sa première expédition, la France est très partagée vis-à-vis de l'expansion territoriale. Il y a toute une partie du public et des parlementaires que cela n'intéresse pas du tout, du tout, du
absolument,
tout.
Absolument, absolument. Ils considèrent que ce sont des idées fantasmagoriques. Braza, lui, était convaincu que c'était un Eldorado très riche. Et comme il était très enthousiaste, qu'il avait de l'entre-gens, qu'il n'hésitait pas à aller voir tout le monde, qu'il a mis en branle la presse, qu'il avait des amis, il a fini par convaincre un certain nombre de gens qu'effectivement, ça pouvait être une bonne affaire. D'autant que c'était aussi l'idée de Léopold et de Stanley. Et que là, sur cet endroit-là, il y avait concurrence. Et il y avait concurrence entre puissances européennes. Alors, effectivement, vous avez raison, la majorité était hostile à des expéditions qui paraissaient coûteuses, aventureuses, sans grand intérêt. Ça allait coûter de l'argent, et parce qu'il fallait que le Parlement vote des crédits. Et c'était ça. Et le Parlement ne voulait pas voter des crédits pour l'Afrique, et en particulier la cuvette congolaise qu'on ignorait totalement.
Enfin, la première décision, c'est la cartographie, c'est de découvrir des terres inconnues. Il a absolument conscience, Braza, comme d'autres au même moment, qu'ils sont les derniers hommes jeunes à pouvoir mettre de l'encre sur le blanc des cartes. Il y a de moins en moins de blanc sur les cartes au milieu du 19e. Mais il reste en Afrique un blanc énorme, puisque juste avant lui, il y a Livingstone, donc qui part du Cap, au Zambèze, dans l'actuelle Zambie, où il y a toujours cette ville qui est Livingstone, qui remonte jusqu'à Luanda, dans l'Ouganda. Il y a Speke et Burton, les Anglais, qui partent de l'océan Indien, qui vont jusqu'au lac Tanganyika. Tout se fait très vite. Donc il sait aussi qu'ils sont les derniers à pouvoir découvrir des fleuves, à pouvoir tracer des parcours, d'écrire. Et la motivation première, c'est celle-ci. C'est une espèce de risque, de l'aventure.
Bien souvent, lorsqu'on nous faisait relever la position du navire, cette grande lacune blanche de la carte exerçait sur moi une attraction toute puissante. Je me disais, une fois les premiers 100 000 franchis, le pied du voyageur doit fouler un sol vierge de toute empreinte européenne. Sous une forme ou une autre, cette idée me poursuivait sans cesse. Logo Houé, surtout qu'il a à nos pieds mêlé ses eaux à celles de l'océan et conservait jalousement le secret de son origine, fournissait matière à maintes discussions. Je soutenais chaleureusement que malgré le climat très malsain, il y aurait le plus grand intérêt à ouvrir par le fleuve une voie vers les régions centrales en le remontant de l'ouest à l'est.
Dans les héros de l'exploration, ceux qui sont allés au bout, ceux qui ne sont pas morts, que ce soit Francis Garnier sur le Mékong, que ce soit Stanley sur le Congo, pour prendre des contemporains, Brazza sur l'Ogooué, tous ont en commun, effectivement, ce courage physique extraordinaire.
Patrick Deville.
Puisque la première fois, Brazza, tout de même, met pratiquement 3 ans, jour pour jour, à faire 1500 km aller-retour dans des conditions effroyables. Et effectivement, la plupart de ceux qui l'accompagnent rebroussent chemin.
Mais on fait de lui l'explorateur aux pieds nus. Véritablement, il a traversé des centaines de kilomètres pieds nus.
Oui, ça c'est juste. Enfin, en tout cas, c'est corroboré par le naturaliste Alfred Marsh qui avait commencé avant lui, par Ballet qui continuera aussi sa carrière. Non, c'est malheureusement aussi des conditions techniques. C'est une toute petite expédition. Et puisque c'est 9 tonnes, dont presque une tonne de sel au départ, il remonte en pirogue, il ne pense absolument pas que ça va durer aussi longtemps que ça. Et c'est une caractéristique aussi des expéditions françaises. Puis Brazza n'est pas né français, mais cette expédition est française. C'est aussi une caractéristique assez intéressante, finalement, qu'ils sont très très vite très démunis, que les paires de chaussures dans ces milieux extrêmement humides durent très peu de temps, et qu'en effet, très très vite, ils sont pieds nus. Mais ça, on pourrait faire des parallèles avec d'autres explorateurs de l'époque, Muo, Pavi, en Asie du Sud-Est, sont des conditions qui sont assez classiques. Par contre, ce qui n'est pas classique, c'est de ne pas rebrousser chemin et de continuer néanmoins.
Pendant ce temps, Stanley, perdu au centre de l'Afrique, doit lui continuer sa route. Que de temps perdu! Jusqu'à ce jour qu'a évoqué pour nous, au bord même de l'Ogooué, à Lambaréné, l'un des plus vieux Gabonais d'aujourd'hui, le docteur Albert Schweitzer.
De Brazza est arrivé à Lambaréné pour la première fois le 12 novembre 1875, au soleil couchant. Il a débarqué au village de Rinoké, roi des Enenga, sur la rive gauche de l'Ogooué, en face de l'endroit où s'élève actuellement mon hôpital. Les Enenga étaient apparentés aux tribus du Haut-Ogooué, parlaient leur langue, étaient restés en relation avec elles. Rinoké mit à la disposition de Brazza ses pirogues, ses pagayeurs, sa connaissance du pays et son influence sur les chefs de la région du Haut-Ogooué. Sans l'aide de Rinoké, Brazza n'aurait pas pu tenter de remonter le fleuve.
Pendant mon école, c'est M. de Brazza qui est venu à nous passer l'examen. Au premier division, c'était moi avec d'autres, non seulement moi, il y avait d'autres avec moi. Le père Picarda, qui était un Breton, il a choisi moi en disant que tu es brave, tu dois aller faire la mission avec M. de Brazza. Oui, oui. Pendant 3 ans, faire le voyage avec le pagayer. L'Enjolé, Lambaréné à Franceville. L'Enjolé à Lambaréné à Franceville. Voilà.
Quand j'ai pénétré dans ce pays, nos couleurs étaient connues. On savait qu'elles étaient celles de la liberté. Les premiers habitants de Franceville ont été des esclaves libérés. La question de l'esclavage est une question complexe. Au début, j'ai dû acheter des hommes à prix d'argent et fort cher, selon le cours, 300 ou 400 francs. Je leur disais quand ils étaient à moi, bûche au pied et fourche au cou, « Toi, de quel pays es-tu ? » « Je suis de l'intérieur. Veux-tu rester avec moi ou retourner dans ton pays ?» Je leur faisais toucher le drapeau français que j'avais hissé. Je leur disais « Va, maintenant tu es libre. L'Afrique rend la guerre à qui sème la guerre, mais comme tous les autres pays, elle rend la paix à qui sème la paix. Ma réputation allait devant moi, m'ouvrant les routes et les cœurs. On me donnait à mon insu le beau nom de « père des esclaves ».
Quand Jules Verne écrit son roman anti-esclavagiste, Jules Verne, de la même façon, c'est aussi un homme de son temps, mais qui écrit contre le... qui dénonce l'esclavage qui a cours encore dans cette région de l'Afrique, même si Jules Verne, lui aussi, est convaincu que les sciences, les techniques, etc. Voilà, à ce moment-là, Braza, donc c'est un capitaine de 15 ans, Braza est dans la jungle à ce moment-là. Mais personne ne le sait, évidemment. Et Jules Verne invente un personnage Samuel Vernon, français, ouais. Un personnage d'explorateur français qui finalement est Braza. Et dans ce roman, Jules Verne raconte les vies de Livingstone, de Stanley, etc. Et là, ça n'est pas de la fiction. Et on voit bien que Jules Verne, ça l'ennuie un peu qu'il n'y ait pas un Français parmi ses héros. Donc il en invente un. Alors qu'il y a Braza perdu quelque part sur l'Ogooué depuis 2 ans à ce moment-là.
De tempérament, les deux hommes, Stanley et Braza, sont opposés. L'un est tout en force, en agressivité. On rentre dedans, c'est un bulldozer, il faut passer à tout prix, sans chercher à comprendre, soit. Et l'autre, plus diplomatiquement, si l'on peut dire, finalement, arrive au même résultat. Et c'était ces résultats qui étaient convoités, on n'en doute pas une seconde à la fin.
Mais vraiment, vous considérez, Robert Arnault, que Braza avait dans l'esprit la conquête lorsqu'il part en expédition ?
Alors, c'est plus compliqué que ça. Il y a eu plusieurs voyages. Le premier voyage, lorsqu'ils sont partis en 1974, l'un et l'autre, n'est-ce pas ? Je pense qu'ils étaient intimement convaincus qu'il partait pour une mission humanitaire pour effectivement planter l'étendard de la civilisation, peut-être essayer d'abolir définitivement l'esclavage. Je crois qu'il partait avec de très bons sentiments.
Braza tout de même que Stanley.
Oui, oui. Oh, vous savez, Stanley était un journaliste explorateur, dans l'idée qu'il allait retrouver Livingstone peut-être. Et puis les deux, disons, avec surtout l'idée d'explorer un terrain que personne ne connaissait. Il ne faut pas oublier que 6 degrés au-dessus et 6 degrés au-dessous de l'équateur, c'était à cette époque-là terra incognita. Personne ne savait ce qui se passait là. C'était quand même très important. Géographiquement, c'était important. Et puis, c'était peut-être aussi un bon terrain. Mais je ne pense pas qu'il y ait déjà en 1974, de 1974 à 1976, des idées précises de colonisation. Je ne pense pas. Et puis, chemin faisant, chemin qui a été dur, il ne faut pas l'oublier quand même, hein, que ce soit l'un ou l'autre, ça n'était quand même pas une promenade de santé. Ils ont failli laisser la peau l'un et l'autre, et Braza en particulier, au moins 2 fois. Mais il fallait quand même passer pour voir en 1974 quoi, pour explorer un terrain qu'on ne connaissait pas, constater qu'il y avait là une richesse extraordinaire, voir quelles étaient les populations. Disons que c'était une exploration géographique, et qui sait, peut-être une première prise de contact avec une idée que l'on reviendrait peut-être pour faire quelque chose de plus important. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que lorsqu'ils sont rentrés l'un et l'autre, d'ailleurs, et Braza est rentré à Paris et a fait sa première conférence à la Sorbonne, il a été accueilli en héros, non pas pour avoir fait un beau voyage, on s'en foutait absolument. Alors pourquoi ? Parce que quand même, il offrait gentiment un territoire qui était à prendre. Et si on relit ses lettres de cette époque, il dit expressément dans ses lettres « Ce territoire n'appartient à personne. Donc il peut appartenir à la France.
Les fétiches ont dit que le blanc apporte le malheur.
Les blancs apportent la paix ou la guerre. Choisis.
Il dit qu'il aille parler avec ses frères.
Eh bien, apporte cette cartouche à tes frères. Et s'ils veulent la paix, tu la rapporteras demain matin.
Alors, je vais vous poser la question, Patrick Deville, que les Africains posaient à Brazza quand ils le rencontraient. Brazza écrit « Et quand je leur disais que les Blancs ont un pays où rien ne manque, ils ne pouvaient s'expliquer pourquoi nous l'avions quitté. » Alors pourquoi Brazza est-il parti ?
Elle est extraordinaire, cette remarque de Brazza concernant ce que lui disent des Africains qui finalement l'accueillent, le respectent, voient bien qu'il n'est pas là pour, gaspiller de la poudre, qu'il n'est pas là pour tuer, qu'il n'est pas là pour conquérir, pas du tout, qu'il est quasiment désarmé. Je crois que ses motivations sont autres. Et quand je dis ses motivations, pour écrire avec un C, parce qu'on peut comparer, justement dans ce livre, ça m'intéressait aussi de mettre à des époques différentes, en parallèle avec des vies comme celle de Brazza, des vies comme celle de Jonas Savimbi ou de Che Guevara, qui prétendent avoir des motivations extrêmement différentes, la libération des peuples, la décolonisation. Mais pour ces hommes d'exception, il y a tout de même quelque chose qui dépasse de loin le but en lui-même.
S'il a rebroussé chemin à la deuxième mission, c'est précisément parce que il fallait forcer le passage et donc là livrer un combat sérieux. Il n'a pas voulu.
Il n'a pas voulu pour des raisons humanitaires.
Oui, parce que c'était contraire à son idée de procéder aussi pacifiquement que possible avec des populations avec lesquelles il avait certaines compréhensions, y compris ses propres adjoints. Alors on a beaucoup parlé du sergent Malamine, qui était un Sénégalais, en fait, il a beaucoup recruté effectivement au Sénégal, ce qu'on appelait les laptos, c'est-à-dire sommes les ouvriers à tout faire. Et il avait confiance en eux, c'est-à-dire il les considérait non pas comme des égaux, mais comme des auxiliaires tout à fait respectables.
Je veux passer par ce chemin.
Non, ici la France.
Il y a deux icônes absolument emblématiques de Brazza, c'est le drapeau. Je touche le drapeau, tu es libéré. Et Malamine, ici, c'est la France.
Éric Dereux.
Et donc ça va être sur les manuels scolaires, dans les buvards, sur les buvards des enfants, dans les points qu'on gagne dans les tablettes de chocolat, ça va être dans les premières pages des journaux, ça va être très vite dans les romans photos, ça va être dans les romans, ça va être dans la couverture des romans populaires, ça va être ensuite dans le cinéma, le film de Léon Poirier, mais aussi dans les actualités, dans un film également documentaire qui existe sur Brazza. On va reproduire ce modèle d'une France qui est différente. Et comme en plus, très vite, Léopold va apparaître comme un infâme négrier, un exploiteur, à travers ce qu'il fait faire avec le caoutchouc, évidemment, Brazza n'en devient qu'un plus beau modèle.
Je n'ai jamais eu l'habitude de voyager dans les pays africains en guerrier comme M. Stanley, toujours accompagné d'une légion d'hommes armés, et je n'ai pas eu besoin de faire des échanges parce que voyageant en ami et non en conquérant, j'ai trouvé partout des gens hospitaliers. Monsieur Stanley avait pris l'habitude de se faire respecter à coups de fusil. Je voyageais, moi, en ami et non en belligérant. C'est pourquoi j'ai pu faire cette conquête pacifique qui a tant surpris l'explorateur américain au service du roi des Belges.
Croyez-vous que Brazza n'ait jamais tiré un coup de fusil ?
Une fois, quand il a
été... Une fois ?
Quand il a été attaqué par les Abfour.
Une fois ?
Ah ben je ne sais pas, mais c'est la version officielle.
Je peux vous lire des lettres. Ah oui. Non, mais non. Bien sûr que non. Ça n'est même pas concevable.
Robert Arnault.
Qu'à cette époque-là, dans le contexte en question, ces gens, des Blancs, qu'on n'a jamais vus, arrivent, s'imposent et disent « Tout ce qui est là, c'est à nous ». Alors, on prend les Africains pour des imbéciles.
Brazza rebrousse chemin tout de même, plusieurs fois, plusieurs reprises.
Parce qu'il n'a jamais pu passer devant l'hostilité des peuplades.
Oui, mais parce qu'il n'utilise pas les armes à ce moment-là. C'est pour ça qu'il rebrousse chemin aussi.
Bah oui, il aurait pu massacrer tout le monde, ça c'est évident. Est-ce qu'il aurait avancé davantage et plus vite? Sûrement pas. Il y serait resté. Non, on rigole pas.
Stanley n'y est pas resté, tout de même. Il a avancé de façon beaucoup plus féroce.
Il est resté derrière le fleuve, d'une part, et il était temps qu'il s'arrête. Et il n'avait pas intérêt à faire un autre voyage, d'après ce que l'on dit.
Donc il aurait été plus malin que Brazza.
Ah, je crois. Je crois que Stanley était plus féroce et plus malin, peut-être pas plus décidé. Les tempéraments, encore une fois, ne sont pas les mêmes. Mais l'un tout en force, l'autre en finesse et en astuce. Mais ce qui me gêne, justement, dans Brazza, c'est ce côté trop gentil, trop diplomate. Quand on voit finalement le but à atteindre, on se dit, mais c'est le même. L'un y va tout droit, l'autre y va avec... mais il y va. Il y va quand même. Les brutalités, ça a marché. On a brûlé des villages. On a tiré des coups de feu. On a descendu des gens qui arrivaient pour attaquer en pirogue. Mais oui, mais oui.
Lors de la deuxième mission de Brazza, c'est là que va être signé le fameux traité Makoko, qui va quand même totalement faire basculer l'expédition de Brazza. On peut presque dire que c'est le début de la conquête, le traité Makoko. Et c'est en 1880.
Tout à fait. Donc le Makoko était en fait un petit chef local auquel on a donné le nom de roi, mais qui n'avait pas grande autorité.
Il s'appelle Dion.
Donc ici, aux archives d'Outre-mer, nous avons un des exemplaires du traité Makoko, hein, puisque vous en avez un autre qui a été remis au roi et un autre qui avait gardé le sergent Malamine. Donc on a un de ces exemplaires, et ainsi que le procès-verbal de remise du traité au roi en 1884, quand Brazza y retourne. Et on voit sur ce texte la signature de Brazza, la signature de son compagnon de Chavannes et du sergent Malamine, et divers signes, dont une sorte de croix qui est le signe du Makoko. Et donc le Makoko donne... la terre, une terre, mais sans vraiment savoir ce que ça signifie pour les Français, hein, ce que ça deviendra, à savoir que pour la France, ce sera le morceau de terre, donc c'est le début du protectorat, le début de la colonie du Congo.
Et surtout sans savoir ce que cela représente pour le Congo.
C'est un acte très solennel, hein, puisque il commence par la date. Nous, Pierre Savonin de Brazza, commissaire du gouvernement de la République française dans l'Ouest africain, puisqu'il faut savoir que là, nous sommes dans la troisième mission de Brazza, que l'on a intitulée « Mission de l'Ouest africain ». Et donc, il est assisté de Charles de Chavannes, son secrétaire, en la cour du roi Makoko, et donc en présence des Vassoum, Pokumtaba, Ngaliené, Nganchou, donc trois sujets du roi Makoko. Et donc, nous avons remis au roi Makoko, en vertu des pouvoirs qui nous ont été donnés, la lettre officielle portant le sceau de la République française et la signature de son président, par lesquelles lettres les actes étaient traités passés au nom de la France sur les terres de Mkuma, état du Makoko, aux dates du 10 septembre 1880 et 3 octobre de la même année, ont été ratifiés par le gouvernement français.
Le roi Makoko, chef des Bateke, ayant concédé son territoire à la France, à laquelle il fait cession de ses droits héréditaires de suprématie, et désirant, en signe de cette cession, arborer les couleurs de la France, je lui remis un pavillon français, et par le présent document, fait en double et revêtu de son signe et de ma signature, donné acte des mesures qu'il a prises à mon égard, en me considérant comme le représentant du gouvernement français.
Il est revenu triomphalement avec la signature, enfin la croix, au pied de son papier du Makoko îlot des Teke.
Catherine Kökri-Widrowicz.
Et ça a été une question posée par les historiens à l'époque. Henri Brunswick, qui avait été mon maître, s'interrogeait beaucoup pour savoir pourquoi ce traité-là avait été reconnu par le Parlement alors qu'il y a des centaines dans les archives, hein, depuis les années 1830-1840, chaque fois qu'un marin civil ou militaire s'arrêtait quelque part, il avait son parchemin, il faisait signer, mettre une croix par le chef local pour reconnaître, ça dépendait, qui prêtait, qui louait, le protectorat, etc. Et Brazza, qui était très conscient, lui, de la rivalité de Stanley, a donc rapporté, à ce moment-là, effectivement, c'était mûr dans l'opinion parlementaire pour faire quelque chose, non pas pour Brazza, mais, disons, contre les rivalités possibles. Donc, effectivement, pourquoi est-ce que tout d'un coup ça a pris et pourquoi l'Assemblée a voté, a reconnu ce traité-là plutôt qu'un autre ?
Mais est-ce qu'il y a des écrits, des rapports concernant ces échanges entre le Makoko et Brazza?
Tout à fait. Nous conservons les journaux de route de Brazza. Et son séjour chez le roi Makoko va durer à peu près 15 jours. Et visiblement, d'après ce que dit Brazza, il y a une certaine amitié qui s'est liée entre les deux hommes. Et sans protocole, il arrivait souvent au roi de venir voir Brazza le matin. Alors Brazza était en train de faire sa toilette. Du coup, Brazza allait après voir le roi. Et donc visiblement, il s'est instauré un certain respect entre les deux hommes.
Mais c'est un marché de dupes tout de même.
Oui, c'est un marché de dupes. Mais vous savez, je crois que...
Qu'est-ce qui a été donné en échange ?
En échange, il a été donné un drapeau français à arborer sur la case du roi, la notion de protection et loin derrière. Il faut avoir toujours en arrière-plan le contexte de la Troisième République qui était la mission civilisatrice de la France.
Mais voilà bien le drame. Voilà bien le drame.
C'est qu'il ne pouvait pas se comprendre.
Mais bien sûr que non. Tout le malentendu vient de là. Si vous parlez à des historiens congolais, ils vous diront « tout ça n'a été qu'un affreux malentendu ». Quand on a signé les premiers traités, que par exemple le Makoko a cédé la ville de ce qui est devenu Brazzaville, il a signé un papier qu'il ne comprenait pas, le malheureux. On le lui a lu, mais ça ne voulait strictement rien dire pour lui. Il a signé quelque chose. Quoi ? On ne savait pas.
C'est un traité de commerce. Il dit « je veux faire du commerce ». Mais c'est après que ce traité, une fois remis en France, devient un traité politique pour être justifié à la grande conférence de Berlin. Donc on peut dire que pour le roi Tekin, c'est un commerçant qui vient s'ajouter à d'autres commerçants qui sont dans la zone. C'est donc par son fait que le Congo français est né.
Excuse l'indiscrétion du journaliste. S'agit-il de malaria chez eux? Pourriez-vous nous dire, sire, si vous estimez que votre grand ancêtre, Sa Majesté Makoko Ier, avait eu raison de conclure ce mémorable pacte de sang avec son ami de Brazza, après avoir été reçu comme le successeur du premier grand monarque du Congo?
Sa
Majesté croit que depuis le passage de Brazza et depuis ce temps mémorable où fut signé le fameux pacte de sang, où fut enterré la guerre, il conçoit, d'après lui, que si réellement il ne s'était pas rendu cette fois-ci en France, que le royaume des Batéké était mis dans l'oubli.
Interview du Makoko, roi des Batéké, juillet 1958.
Il tient encore à souligner que partout où il est passé, il a été traité avec des égards qui sont dévolus en sa personnalité traditionnelle. Et il se rend maintenant compte que ses ancêtres n'avaient pas commis une bêtise, mais plutôt avaient fait œuvre utile, le fait d'avoir demandé la protection de la France. Sire, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon retour.
Ce qui souciait les puissances occidentales à ce moment-là, ce n'était pas tellement l'occupation des terres, encore que ça commençait, c'était la concurrence internationale, c'est-à-dire la concurrence européenne sur les grands fleuves. Et la grande volonté des puissances occidentales, c'était que quelles que soient les installations des voisins, des Britanniques, des Français, un peu après il y a eu les Allemands, etc., quelles que soient les occupations coloniales, il fallait que les deux grands fleuves d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, c'est-à-dire le Niger et le Congo, soient accessibles par toutes les puissances commerciales européennes.
D'où la conférence de Berlin en 1885.
Voilà, c'était ça. On oublie que le grand objectif de la conférence de Berlin, c'était ça. Ce n'était pas le partage colonial, c'était affirmer la liberté de commerce sur les grands fleuves. C'est l'article 1. Donc la libre concurrence. Et le corollaire, ça a été de dire, bon, depuis une trentaine d'années, il y a beaucoup d'accrochages entre nos militaires ou nos marins sur les côtes. Il y a des multitudes de rapports décrivant, par exemple, bien, j'ai pris mes jumelles d'un militaire, d'un marin, j'ai pris mes jumelles ce matin, j'ai vu un canot britannique avec un pavillon qui allait le planter sur telle île, alors nous avons pris notre canot, nous sommes allés le planter sur telle autre île, et alors qu'est-ce qu'on fait? Et ça durait 2 mois, évidemment, les communications étaient pas rapides, donc ils prenaient toute une série d'initiatives, et quelquefois ça pouvait tourner mal. Donc, l'idée, c'était d'éviter de se faire la guerre pour des territoires dont on pensait qu'ils n'étaient quand même pas très intéressants, et donc de fixer les règles du jeu, c'est-à-dire fixer les règles de partage à l'avenir. Et ça a beaucoup accéléré ce qu'on a appelé le partage de l'Afrique. C'est le moment où on parle de la course au clocher, ou du Scramble for Africa, c'est entre 1885 et 1900.
Restez en contact constant avec les Noirs. Payez leurs services, achetez leurs vivres, écoutez leurs doléances, et forcez-vous à comprendre non seulement les mots qu'ils prononcent, mais aussi leur mentalité. Étudiez leurs aptitudes, mêlez-vous à leur vie. Dans vos moments perdus, visitez leur village. Interrogez femmes et enfants couchés chez eux. Explorez la contrée avoisinante. Pas d'armes, pas d'escorte. Allez seul, accompagné d'un interprète et d'un boy si besoin. N'oubliez pas que vous êtes l'intrus que l'on n'a pas appelé.
Dans ses instructions à propos des Africains, le gouverneur de colonie Savagnan de Brazza dit « Payez leurs services, achetez leurs vivres, écoutez leurs doléances, n'oubliez pas que vous êtes l'intrus qu'on n'a pas appelé. » Est-ce qu'il était un colon plus humaniste que d'autres ou pas?
Non, je crois que...
Jérôme Hollandais.
On ne peut pas associer colon et humaniste, parce que le fait de coloniser, c'est le fait de nier l'autre. Donc, ça me paraît incompatible. Donc, Savoyen de Brazza, son traité est ratifié à Paris. Donc, on lui donne le feu vert pour créer son Congo français. Mais lorsqu'il le crée et qu'il demande les moyens, on ne lui donne pas. Alors, il imagine ses moyens.
Et ils ont dû se demander ce qu'on pourrait faire de ces pays, ce qu'on devrait faire de ces pays, comment on devrait faire. Ils ont dû en tracer des plans. Ils ont dû en faire des propositions qui ont été écrites ou pas. Après Stanley Brazza, il y a eu une véritable coupure, un véritable changement d'attitude de tous les pays. Là commençait la colonisation. En fait, Stanley et Brazza ont été des outils de la colonisation. Ils n'étaient pas encore des colonisateurs, eux. Ils sont restés des explorateurs. Ils ont dit, là, il y a quelque chose d'extraordinaire, qui n'est pas exploité et qui est exploitable. Personne ne possède ceci, débrouillez-vous messieurs. Hein, vous savez, quand pendant des années, toutes les nuits, vous êtes en forêt, hein, et que vous avez des insomnies, vous avez le temps de penser à certaines choses. Il a dû s'en passer des choses dans la tête de ces deux hommes.
Il pensait que des sociétés commerciales allaient investir. C'est là qu'il s'est complètement trompé. Parce qu'une société commerciale n'est pas une société d'investissement. Une société commerciale a besoin de faire des profits dans le court terme.
Catherine Kökri-Widrowicz.
Donc, ne va pas investir lourdement dans le chemin de fer, dans la construction de pistes, etc. C'est beaucoup trop coûteux pour une société commerciale. C'est-à-dire qu'il rêvait, par exemple, d'un chemin de fer, comme Léopold l'a fait sur la rive gauche du Congo. Brazza a essayé de contacter des industriels, de lancer un projet, mais personne n'était intéressé.
C'était... Donc là, il était visionnaire.
Là, il était visionnaire, mais il fallait beaucoup d'argent. Et Léopold a pu le faire à coup de trick et par le travail forcé et d'une façon extrêmement violente, ce que Brazza ne voulait pas faire.
Mais faute de subvention de l'État, Brazza a dû aller chercher des capitaux privés. Et d'une certaine façon, c'est lui qui a un petit peu introduit le loup dans la bergerie, puisqu'il a créé la première concessionnaire compagnie, du Haut-Gouët.
Oui, la société du Haut-Gouët. Oui, il cherchait des crédits partout où il pouvait en trouver. Il pensait que, probablement, enfin je ne sais pas, mais il pensait que l'humanité était bonne et que tout ça marcherait très bien. Et il n'a pas du tout réalisé à quel point la non-concurrence était quelque chose de dangereux. Il l'a réalisé, mais trop tard.
Il ne peut pas grand-chose.
Patrick Deville.
C'est-à-dire que, à son insu, un système colonial se met en place qu'il essaie pendant un moment vraisemblablement de résister, mais il n'en a pas les moyens. Mais je crois qu'il n'en a pas les moyens, même techniques et administratifs. C'est-à-dire qu'on utilise un peu son nom parce qu'il est tout de même nommé gouverneur général de cette région, mais que tout se fait dans son dos, qu'il ne sait pas s'occuper de ça. Il ne sait pas s'occuper du commerce, que finalement, ce sont des compagnies commerciales qui s'emparent du Congo et du Gabon. Ce sont les pays dans lesquels il n'y a pas eu de colonies au sens étymologique. Ce n'est pas des colonies de peuplement. Il y a très, très peu de blancs nulle part. Ce sont des compagnies commerciales qui découpent sur la carte des zones, sont donc 40 compagnies, Alibaba, les 40 voleurs, mais qui envoient quelques personnes, c'est rien du tout.
En voulant imposer brusquement aux populations d'Afrique nos réglementations, nos manières de faire, de voir et de penser, nous arriverions infailliblement à une lutte où nous les conduirions à l'anéantissement. Une colonie doit être créée sans en forcer le développement, sans vouloir qu'elle rentre dans un type déterminé. Que le haut commerce prenne garde de vouloir mettre trop vite en coupe réglée une possession qu'à vrai dire nous connaissons encore insuffisamment et dont les indigènes ne sont pas encore initiés à ce que nous voulons d'eux. Préparer un pays à la colonisation est œuvre de temps et de patience. Être français et vivre au centre de l'Afrique, c'est avoir dans le cœur toutes les grandes pitiés de la civilisation. L'Afrique est assez grande pour qu'il y ait place pour tous les intérêts, pour tous les dévouements et pour tous les devoirs.
On est dans les années 90, alors là, on est dans un climat différent. C'est la course au clocher, c'est-à-dire celui qui ira le plus vite. Donc, Brazza n'est pas là-dedans. Il est resté un homme de son temps, c'est-à-dire de 10 ans avant. Attention, il faut quand même manier les gens avec prudence. On ne va pas tirer dans le tas. Et par conséquent, il est effectivement rappelé autoritairement et mis à la retraite d'office et renvoyé en 1898 au bénéfice d'une administration nettement plus brutal.
Et donc Brazza est viré, ce qui est peut-être pas plus mal pour lui, justement, puisqu'il ne trempe pas dans cette histoire. Et quand ensuite il obtient, en faisant des pieds et des mains, une mission d'inspection, où là, en effet, il est effondré de voir ce que ces territoires sont devenus par rapport à ce qu'il rêvait qu'ils deviennent. En même temps, on peut imaginer, je crois pas qu'il ait écrit, son rapport a disparu. Mais je ne crois pas qu'il ait écrit parce que
On
l'a fait disparaître, oui. Le rapport. Et peut-être Brazza aussi, d'ailleurs. C'est ce que sa femme pensera tout le temps. Mais en tout cas, le rapport, c'est sûr, on l'a fait disparaître.
Alors précisément, au musée Carnavalet, devant nous, la Malie de Savrognan de Brazza, donc celle qu'il a suivie lors de son dernier périple.
Voilà, avant-dernier et dernier.
Oui. Mais alors, ce ne fut pas la première malle.
Non, je dirais c'est un modèle qui existe chez Louis Vuitton et dont Savorgnan de Brazza a été un des utilisateurs. Comme Savorgnan avait tout un campement, il avait la Malie, il avait d'autres malles pour transporter son linge, ses documents, et il avait entre autres une malle bureau.
Patrick Louis Vuitton.
La fameuse malle bureau sur laquelle il écrivait tous ses rapports et ce dernier rapport de son dernier voyage. Sur la situation africaine et les désastres de la colonisation et des sévices portés aux populations africaines, tout était marqué dessus. Et quand il est mort à Dakar, naturellement, tout le monde a essayé de saisir les documents à l'intérieur, qui étaient hyper dangereux, s'ils pouvaient être exploités de façon différente. Et personne n'a pu ouvrir cette malle, les tiroirs secrets. Donc elle est rentrée à Paris. À Paris, pareil, le ministre n'a pas pu, ou le secrétaire d'État au territoire d'outre-mer n'a pas pu l'ouvrir. Et donc on a appelé le fabricant, qui était mon arrière-grand-père, Georges, et qui s'est déplacé au ministère pour ouvrir ces tiroirs. Donc la malle avait des tiroirs secrets. Deux personnes étaient au courant pour les ouvrir et les fermer, c'est-à-dire mon grand-père et Savorgnan de Brazza.
Et votre grand-père a vu les papiers de Savorgnan de
Brazza? Ah oui, absolument, oui. Il les a vus, c'est lui qui les a sortis de la malle.
Et vous savez à peu près ce que représentait au point de vue
du nombre
de pages?
Non, personne ne... On suppose, parce que tous ces documents ont disparu. Oui. Alors, est-ce que le ministre les a gardés et vu ce qui était probablement dedans, puisque c'était les constatations que Savorgnan avait faites en Afrique, et sur ce qui se passait là-bas? Je pense que tout ça, ça a dû passer de main en main, ou le ministre les a détruits. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas.
Alors, ce rapport, plus personne ne le possède. On ne sait pas où il se trouve. Alors, il y a tout un mystère avec lorsque la fameuse malle Vuitton est arrivée en France. A-t-il été pillé? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec ce rapport?
Ah ben ça, je peux vous répondre très simplement. Le rapport est dans les archives.
Oui, mais ce n'était pas l'original.
Si, c'est un des... C'est-à-dire, le rapport a été diffusé au sein des autorités françaises en 10 exemplaires. L'original, c'est pas Brazza qui l'a rédigé lui-même. Brazza est mort au retour de sa mission à Dakar, et c'est donc un ensemble de hauts fonctionnaires français de l'administration coloniale, tout à fait réputé, pas du tout révolutionnaire, vraiment l'institution, qui a rédigé le rapport d'après les notes de la mission. Et le rapport a été soumis au ministre, qui a trouvé que ce rapport était tellement violent qu'il fallait quand même l'amender. Il a demandé quelques 200 corrections. Alors effectivement, l'original, il doit exister quelque part, mais rapport d'origine... Mais le rapport amendé est déjà pas mal. Hein. Il est suffisamment inquiétant compte tenu de scandale du caoutchouc rouge pour que le nouveau ministre des colonies, parce qu'il y a un changement de ministère à ce moment-là, donne l'ordre de ne pas le diffuser.
Il ennuie tout le monde, il est très très mal vu par les colons, et il écrit son rapport, et il pense bien revenir vivant en France, et comme il sait qu'il a l'opinion publique derrière lui, c'est une...
Il recevait des menaces de mort tout de même.
Il a reçu justement des menaces de mort, oui, bien sûr. Oui. Il a reçu des menaces de mort, donc il savait qu'il risquait sa vie en faisant cette enquête. Et puis, il a suivi ce procès, la Tokégo, qui est l'image la plus affreuse de ce qu'il peut y avoir justement dans ces situations, quoi, de deux cinglés qui ont assassiné un roi local.
Récalcitrant,
oui. Et qui donc, tout de même, sont...
Qui l'ont assassiné de façon horrible.
Absolument terrible, hein, oui. Et en même temps, un soir de 14 juillet, en lui enfilant de la dynamite dans l'anus et en le faisant exploser. Comme une mise en garde ou un exemple. Voilà. Et alors néanmoins, il y a un procès à Brazzaville. Et Brazza, qui est déjà très malade, se fait communiquer chaque soir les minutes du procès. Et on peut imaginer que ces types qui sont tout de même condamnés à 5 ans de prison ne l'auraient peut-être pas même été si Brazza n'avait pas... Ce qui fait qu'il est encore plus mal vu, quoi.
Il mourra de chagrin quand même, et peut-être empoisonné.
Ça justement, on ne sait pas, on aurait pu le savoir. Moi, je regrette qu'on ne l'ait pas su, là, puisqu'on a extrait sa dépouille à Alger. Ça aurait été très, très facile d'en finir avec ça. et de savoir, enfin bon, ça n'intéresse pas grand monde, mais de savoir si effectivement aujourd'hui on avait les moyens, puisqu'on l'a sorti de son cercueil, savoir s'il a été empoisonné ou pas, ce qui est la thèse que sa veuve, qui l'accompagnait dans le dernier voyage, continuera toute sa vie. Elle refusera le Panthéon, puisque une fois qu'il est mort, là, on a envie de lui faire des obsèques nationales et le Panthéon, c'est elle qui refusera en disant qu'il a vraisemblablement été empoisonné.
Les tribulations de Savorgnan de Brazza n'ont pas pris fin avec sa mort. Brazza fut tout d'abord inhumé au Père Lachaise, puis transporté à Alger, où il s'était retiré après son limogeage de l'administration du Congo. Le 3 octobre 2006, à la demande de la branche italienne de sa famille, les dépouilles de Brazza, de sa femme et de leurs 4 enfants ont été transférées à Brazzaville, où son mausolée ne cesse de faire débat.
Attendue toute la journée, l'arrivée des 6 cercueils portés à bout de bras par des militaires gabonais se produit à la tombée de la nuit. La Marseillaise retentit, suivie des hymnes du Gabon et du Congo, puis les chefs d'État des 2 pays se recueillent avec l'ambassadeur de France devant la dépouille de Savorgnan de Brazza, recouverte du drapeau tricolore, entourée de celle de son épouse et de ses 4 enfants.
Et vous étiez présente, Isabelle Dion, le 3 octobre 2006, lorsque les dépouilles de Brazza et des membres de sa famille sont arrivées à Brazzaville, justement pour cette cérémonie officielle. Alors comment avez-vous vécu cette journée ?
Oui, en effet, j'ai eu la chance d'être présente pour les cérémonies. Je dirais que, bon, hormis le fait que j'ai trouvé ces journées quand même assez surréalistes, parce que, bon, si on réfléchit bien, on se dit que c'est le retour, malgré tout, d'un colonisateur, entre guillemets, dans le pays qu'il a colonisé. Donc, on est quand même assez surpris de ce déploiement de fastes, de cérémonies, puisqu'il y avait... le descendant du roi Makoko en grande pompe avec ses femmes et ses vassaux qui étaient là. Donc c'était assez... Oui, je crois que le mot surréaliste est le mot qu'il faut employer. Cela dit, pour moi, qui avait travaillé pendant 18 mois sur Brazza, ça a été un moment d'immense émotion. Et je dois dire que j'ai même pleuré. Ça a été au moment où les cercueils sont arrivés dans la cathédrale de Brazzaville. D'ailleurs, j'en parle encore avec une grande émotion. Et ça a été de me dire que pendant 18 mois, j'avais travaillé sur un mythe, mais sur quelque chose que je ne pouvais pas appréhender. Et que tout à coup, Brazza passait à côté de moi. Et là, je dois dire que j'ai vraiment été submergée d'émotions.
Et quelle était l'ambiance dans la ville ce jour-là, Isabelle Dion ?
Malheureusement, l'ambiance, là aussi, était assez particulière parce que vous aviez, d'un côté, vous aviez d'immenses affiches, le président Sassou Nguesso avec derrière Brazza, avec Brazza revient. Vous aviez plein de gens avec des t-shirts ou des femmes avec des boubous, Brazza revient. Et bon, c'était une... j'allais dire une liesse assez forcée, quoique enfin, certains diront le contraire, mais enfin moi c'est ce que j'ai ressenti. Et d'autant que bon, la population de Brazzaville, enfin je dirais la véritable population, était complètement mise à l'écart. Donc il y avait des cérémonies, mais il y avait les barrières, les gens étaient contenus par la police. Et c'est vrai que la jeunesse ne comprenait pas pour quelles raisons on dépensait autant d'argent, alors que dans la ville, on a besoin d'infrastructures, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de route. Voilà, c'était assez incompréhensible.
Et vous avez rencontré des gens en colère, Isabelle Dion ?
Oui, j'ai rencontré des jeunes gens assez en colère, vraiment, et qui ne comprenaient pas, donc, et qui pensaient qu'en fait, on venait cautionner, malheureusement, la politique du président.
Je trouve ridicule quand on célèbre des Brazza ou encore quand on rapatrie ses restes. C'est en fait légitimer un peu, remercier en fait l'humiliation. Colonialiste.
Bon, je crois que derrière le transfert, il y avait aussi une demande de la famille au président de réaliser certaines choses pour le pays, notamment des infrastructures, un hôpital, et visiblement ça n'a pas été fait.
Des descendants indirects de Braza, puisque la lignée s'est éteinte, ses quatre enfants sont morts sans descendance. Mais donc les descendants indirects avec qui j'étais à l'enterrement à Braza, enfin à Brazzaville, en octobre 2006, qui avaient signé, qui avaient donné leur autorisation, signé des accords avec peut-être les Algériens, peut-être les, enfin en tout cas aussi les Congolais, estimant que les conditions ne sont pas remplies, intentent un procès auprès des autorités congolaises pour cette fois-ci, en effet, rapatrier les dépouilles en Algérie, en Italie, mais, et non plus en Algérie.
Ah bon, il était question de la basilique également de Brazzaville.
Oui, oui. Ça, c'était déjà un débat interne,
oui,
de savoir si cet immense monument ne pouvait pas servir à autre chose. Parce que c'est vraiment très grand, c'est tout en marbre, c'est vraiment très très grand, qu'il y a peu de bâtiments de ce genre, et modernes, et neufs, et qu'effectivement ça pourrait servir à autre chose. Au cœur de la capitale, qu'a abrité les dépouilles de 6 personnes. Et donc, il y avait déjà cette idée que peut-être on pourrait les extraire de là et les mettre dans la basilique Sainte-Anne du Congo, me semble-t-il. Mais par contre, la plainte des descendants indirects italiens, c'est carrément, au contraire, pour récupérer les dépouilles et les inhumer en Italie.
Je pense que Braza pourrait rester en Afrique, mais loin de ce faste. Bon, il n'a vraiment pas besoin d'un mausolée en marbre de Carrare. La seule chose intéressante est que le mausolée est sur les bords du Congo qu'il a tant aimé. Mais bon, ça pouvait être beaucoup plus simple. Et je pense qu'à ce moment-là, ça aurait été mieux accepté.
Et peut-être plus proche aussi de ce qu'il avait été.
Oui, complètement. Oui, je pense qu'il faudrait retourner à plus de simplicité.
Pierre Savorgnan de Braza, une émission de Françoise Esteb et Jean-Claude Loiseau, avec Robert Arnaud, auteur de « Sur les traces de Stanley Braza au Mercure de France », Catherine Kokri-Widrowicz, professeure émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Paris 7, spécialiste de l'Afrique et de la colonisation, auteur récemment des enjeux politiques de l'histoire coloniale, édition Agone, avec Patrick Deville, écrivain, auteur de l'ouvrage Équatoria aux éditions du Seuil, Isabelle Dion, conservatrice en chef aux Archives nationales d'Outre-mer, auteur de Pierre Savorgnan de Braza au cœur du Congo, Archives nationales d'Outre-mer, Images en manœuvre édition. Et Patrick-Louis Vuitton, enregistré au Musée Carnavalet dans le cadre de l'exposition Voyage en capitale, Louis Vuitton et Paris, jusqu'au 27 février 2011. Texte lu par Stéphane Valency, Archivina Martine Auger, Archives RFI, Françoise Delignon. Extrait du film de Léon Poirier, Braza ou l'épopée du Congo. Enregistrement Michel Mestre. Mixage Jean-Richard Dufour.
C'était Une vie, une œuvre de l'été, avec aujourd'hui une émission sur Pierre Savorgnan de Braza par Françoise Esteb et Jean-Claude Loiseau. Vous savez que nous parlons de voyage et de voyageurs jusqu'à la fin août. Et demain, même heure, il sera question de Joseph Kessel. Le voyage, voilà 30 ans qu'il dure avec vous d'ailleurs. 30 ans qu'Une vie, une œuvre existe. Et nous fêterons dignement cet anniversaire à l'automne prochain par la parution d'un livre reprenant les émissions que nous avons le plus appréciées. Ce sera chez Albin Michel. Rendez-vous donc en octobre sur les tables des libraires. Mais aussi rendez-vous demain à 17h à l'antenne et quand vous le voulez sur les réseaux sociaux. Allez, très bonne journée à vous.